Césarée.
Oui.
Voyage en utopie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage en Utopie, une émission proposée par Césarée, Centre National de Création Musicale de Reims. Alors aujourd'hui on est sur un format d'émission un petit peu particulier puisque je vais complètement laisser la main à un réalisateur qui s'appelle Guillaume Kosmicki et qui m'a proposé tout simplement de réaliser cette émission aujourd'hui pour faire un focus autour d'un festival qu'il a eu la chance de suivre, le festival Soror Sonore. Alors Soror Sonore, c'est un festival autour de la création féminine qui a été initiée par Céline Pierre. Céline Pierre, artiste pluridisciplinaire qui travaille autour, qui est compositrice de musique d'une part, qui est réalisatrice, qui travaille beaucoup avec l'image, avec la vidéo. Et Céline, c'est une artiste qu'on suit depuis pas mal d'années à Césarée, qui vient régulièrement travailler dans nos studios. Et donc voilà, Céline a monté ce festival Soror Sonore. Et dans le cadre du festival, Guillaume a eu la chance de suivre les concerts, les performances, les rencontres avec les artistes et m'a proposé de réaliser une petite émission. Donc je vais vous laisser avec l'émission montée par Guillaume, donc Guillaume Kosmicki qui est à la réalisation et les interviews. L'enregistrement des concerts a été réalisé par Pomme Bouvier B et la voix additionnelle que vous allez entendre dans l'émission est la voix de Sabrina Morisson. Merci Guillaume, merci Céline et je vous laisse tout de suite écouter cette émission Soror Sonore.
Centre National de Création Musicale.
Soror Sonore s'est tenu les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 mai 2025, dans le cadre des saisons culturelles Vision Sonore de la ville de Chaumont au Nouveau Relax. Soror Sonore rassemblait 9 portraits vidéo de femmes, des musiques de création et 12 musiciennes artistes du sonore pour interroger, via le prisme de la sororité, notre façon de faire commun. Soror Sonore est un événement proposé par la compositrice visuelle et sonore Céline Pierre, par la musicienne improvisatrice Patricia Dalio et par la ville de Chaumont, avec la participation des étudiants d'art appliqué, design graphique et médiation culturelle du lycée Charles de Gaulle et de l'orchestre à cordes du conservatoire de la ville de Chaumont. Solo suite, Soisic le bras. Thank you.
Nous sommes avec Soisic Lebras, qui a, en début de soirée, la première soirée d'Aurore Sonore, a joué solo suite, donc une interprétation libre de la première suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, et donc une improvisation libre autour de ces danses qui sont enchâssées, je dirais, vraiment dans ces moments d'improvisation. Alors Soisic, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de monter ce solo ?
Je pense que j'étais très attachée à cette pièce de Bach, parce que tout simplement, en tant que apprenante du violoncelle, je l'ai rencontrée assez jeune, dès 7-8 ans, quand j'apprenais le violoncelle, d'abord dans une école de musique, puis ensuite au conservatoire. Et j'ai retraversé cette pièce assez régulièrement, pendant ma formation de musicienne-interprète classique. Et c'est une pièce qui donc m'a suivie, en tout cas à ce moment-là, jusqu'à 18 ans. Et après, au-delà aussi, parce que c'est souvent l'occasion de la... Enfin, on la joue souvent, tout le monde la connaît. On m'a souvent demandé de la jouer aussi, pour une personne, deux personnes, trois personnes. Donc voilà, c'est une pièce que j'ai jouée dans plein de contextes très différents. Et j'avais envie de retraverser toute cette sédimentation, d'interprétation que j'avais eue depuis l'âge de 7 ans jusqu'à actuellement. Et donc, c'est plus d'une trentaine d'années, que je retraverse à travers ce solo suite. Et l'idée pour moi, c'était de, à la fois, jouer le texte, puisque c'est important pour moi aussi d'être vraiment à cet endroit de l'œuvre de Bach, et aussi de m'autoriser à aller... là où je vais peut-être plus spontanément maintenant, et aussi d'être à la fois dans l'improvisation et dans l'interprétation de mes propres compositions. Donc ça a donné ce format, solo suite, et qui est donc un mélange, un enchâssement, c'est un joli mot, des mouvements de la suite de Bach avec des matériaux, mes propres matériaux. Et ces matériaux, je m'autorise à les recombiner en direct à chaque concert. Voilà.
Et quand tu parles donc de tout ce parcours, cette familiarité que tu as eue avec cette première suite de danse de Jean-Sébastien Bach, alors qu'on connaît toutes et tous, parce que évidemment, pour les mélomanes, c'est un passage obligé, pour les violoncellistes, encore plus, parce que ça fait partie du répertoire. Est-ce qu'il y a un aspect, je dirais, presque ce mot, je ne sais pas, traumatique, ou quelque chose à régler aussi avec cette répétition, j'imagine, très longue, à l'infini, qu'on a dans une œuvre d'étude comme ça? Est-ce qu'il y a ce genre de réflexion, je dirais, très personnelle, presque autobiographique, au travers de ce travail?
Oui, c'est sûr, mais c'est pas à l'endroit du traumatisme. C'est plus à l'endroit de quelle relation j'ai créée avec cette œuvre en fonction des époques, des âges que j'avais, en fait. Il y a une évolution dans la façon dont j'aborde cette pièce quand j'ai 7 ans, quand j'en ai 12, quand j'en ai 15, quand j'en ai 18, et voilà. Et à chaque fois, c'est une relation différente que j'ai avec cette œuvre, cette pièce. Et en fait, c'est un peu une traversée, un peu, peut-être, il y a un petit peu de nostalgie là-dedans, c'est-à-dire que je me remémore, en fait, toutes ces relations que j'ai créée, et qu'elle, c'est peut-être là une relation qui évolue au fil du temps, mais c'est bien ça que je raconte quand même dans cette pièce, oui. Donc c'est un endroit d'autobiographie, effectivement, mais voilà, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de joyeux, voilà.
Alors de fait, il y a un aspect mémoriel, ça c'est évident quand on écoute. Tu as commencé là par l'improvisation, alors c'était le fameux sol qui débute le prélude, on a tourné autour de sol, on a eu des sols à l'octave, harmonique, en harmonique, enfin dans toutes sortes de techniques. Et puis d'un seul coup, le prélude bien connu surgit. Et il découle, semble-t-il, tout naturellement de l'improvisation, aussi bien qu'on se demande à des moments d'ailleurs si Bach découle de l'improvisation ou même l'improvisation découle de Bach. Il y a un peu des deux, vraiment. Et cet aspect mémoriel, il est là, il est évident, mais c'est pas quelque chose de... Enfin, je dirais, c'est pas comme un musée. Bach est vraiment mis sur l'établi. C'est le but.
Oui, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'utilise, on peut le dire comme ça, j'utilise Bach comme un matériau, effectivement, à la fois de connaissances, de mémoire, puisqu'effectivement, mais aussi de, comment dire, de composition. C'est-à-dire que j'utilise, finalement, ce que Bach a lui-même utilisé pour faire sa propre composition, je me l'approprie d'une certaine manière, effectivement. Donc, je commence par un sol, oui, on est en sol majeur. Enfin, voilà, c'est, et tout ce qui est lié aux danses aussi, je prend beaucoup tout ce qui est lié au rythme de la danse, de la gigue, du menuet. Et je repars aussi sur des idées que Bach lui-même a développées. C'est-à-dire que le prélude, ben, c'est ce qui vient avant tout le reste. Il va présenter toute l'harmonie de la pièce. Évidemment, ben, je rejoue aussi avec ces codes d'une écriture savante, académique. Mais voilà, c'est parce que c'est aussi ma culture et j'avais envie de ne pas mettre en opposition cette culture qui m'a forgée et avec laquelle j'ai beaucoup de joie, ce rapport à ce matériau qui voilà me parle beaucoup. Je parle pas de ce qu'on fait de la musique classique aujourd'hui, que ça soit dans les conservatoires ou les temps de diffusion. Pour moi, ça c'est encore autre chose. On va dire les pratiques sociales de référence en musique classique, c'est pas ça que je voulais mettre en valeur. C'est vraiment ma relation à un matériau sonore, à un matériau musical et comment j'entre. Grâce à Bach, puisque c'est quand même lui qui me donne cette porte d'entrée, moi-même, dans quelque chose qui m'inspire assez pour aller à un endroit qui me correspond.
Alors, ce qui est vraiment remarquable aussi, c'est que ce n'est pas du collage. On n'est pas dans la juxtaposition d'éléments, la confrontation, je dirais, abrupte, un petit peu sous le principe d'un choc. Pas du tout. C'est beaucoup plus quelque chose d'organique dans la relation entre le passage improvisé, enfin ce qui te ressemble plus aujourd'hui, nous dis-tu, et la citation de Bach. Citation, tu nous l'as dit, qui est intégrale. Ça m'a le plus surpris parce qu'il y a tellement de musique qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, toute l'œuvre était là, sans les reprises, certes, mais toute l'œuvre.
Oui, tout à fait. Pour moi aussi, oui, c'était important que toute l'œuvre soit là. Et puis, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, oui, ce n'est pas de l'ordre de la confrontation pour moi, parce que c'est vraiment l'idée, à l'inverse, de relier qui je suis, qui j'étais en traversant en traversant cette pièce de Bach, qui je suis maintenant, et justement de proposer en fait aux auditeurs, auditrices, cette cohérence qui est en moi. Je suis faite de cette musique, voilà. Je fais autre chose, je ne fais pas que cette musique, je ne fais plus cette musique, je n'interprète plus les œuvres classiques depuis de nombreuses années, mais en fait, elle m'a construite et c'est un endroit qui pour moi est très cohérent et j'avais envie de le partager. Et du coup, j'avais envie que ça soit aussi facile pour les auditeurs, auditrices, enfin, qui vivent un peu la même chose que moi, quelque chose en adéquation, voilà, quelque chose qui va ensemble, pas quelque chose qui est en confrontation.
Et alors, dernière chose, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que ça introduisait un paramètre dans la musique de Bach qui, en vérité, est peu développé par Jean-Sébastien Bach, c'est le paramètre du timbre, qui est extrêmement exploité dans ton travail d'improvisatrice, et en vérité, pas tellement chez Bach, ce qui fait que souvent on dit que les œuvres de Bach, on peut les transposer à toutes sortes d'instruments, que ça pose aucun problème, en vérité, la sonorité s'adaptera toujours à la musicalité, je dirais, à l'écriture relativement parfaite. Enfin, je veux dire, il y a une certaine maîtrise des grammaires chez Bach, enfin, de certaines grammaires, la grammaire polyphonique par exemple. Et or là, clairement, tu introduis ce paramètre du timbre et tu donnes un éclairage complètement nouveau à Bach. Vraiment cette idée de la possibilité de travailler la matière sonore. Alors, c'est pas spécifiquement dans Bach que ça se passe, c'est autour de Bach, mais ça complète Bach, je dirais.
Oui, alors pour moi, c'est la question du timbre, elle est évidente aussi parce que j'aborde l'œuvre de Bach parce que je suis violoncelliste et que j'ai un rapport à l'instrument et à cet endroit de faire sonner l'instrument qui est toujours là. C'est-à-dire que je pense que je suis vraiment violoncelliste en ce sens. J'aime jouer du violoncelle, j'aime faire sonner l'instrument, j'aime le timbre de l'instrument, j'aime exploiter toutes ses possibilités en fait. Et du coup, Bach aussi, il le faisait, c'est ce qu'il fait aussi dans son écriture, simplement, voilà, c'est une écriture de son époque, de là où il en est, mais en fait, c'est, voilà, il y a toute cette possibilité, on peut vraiment faire entendre le timbre à travers cette pièce de Bach. Pour moi, c'était vraiment une évidence, j'ai pas cherché longtemps, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, Soazic Levrat.
Merci à toi, Guillaume.
Impro Multiset numéro 3, avec Céline Pierre, Soizic Lebras, Ayako Ukubo, Patricia Dalio, Floyd Crouchy, Pomme Bouvier B, Laetitia Pitt et Lucie Prodhomme.
Le 23 mars 1941, Virginia écrit à Vanessa, sa sœur aimée, que l'horreur a recommencé. Des voix inhumaines l'assiègent, elle redevient folle. Elle pense qu'elle ne pourra pas surmonter cette nouvelle épreuve. Le 24 mars 1941, elle reprend son journal pour la dernière fois. Léonard est en train de tailler ses rhododendrons. Le 27 mars 1941, Léonard, très inquiet, la conduit à Brighton pour qu'elle consulte le docteur Octavia. Le 28 mars 1941, Virginia écrit une dernière lettre à Léonard. Ce même jour, elle entre dans l'ouze, les poches pleines de pierres. Les eaux se referment sur elle. Et rien ne vient soulever leur poids. Je passerai ma vie cramponnée au contour des mots.
Alors nous sommes avec Céline Pierre, qui est l'instigatrice de Soror Sonore. J'ai beaucoup de questions à te poser concernant ce festival. La première chose que je voudrais te demander, c'est d'où est venue l'idée de rassembler toutes ces artistes et de cette manière-là.
Alors, je suis obligée de à nouveau faire un petit détour parce que c'est pas envisagé ou présenté comme un festival. Ça, c'est un des paramètres. Qui dépend des financements, mais qui permet aussi de préciser certaines notions qui sont intéressantes. Donc le projet Soror Sonore, il a été initié en 2022 avec des portraits vidéo. Il se déploie dans le temps et selon les circonstances. Et là, ce qui a permis qu'on se rencontre sur ces trois jours, ben c'est grâce à Patricia Dalio, qui est une des compositrices dont j'ai réalisé le portrait vidéo et qui est implantée à Chaumont et qui donc a proposé à un moment donné de travailler avec la ville qui avait une possibilité avec un lieu, c'est-à-dire le Nouveau Relax, et dans une durée de 3 jours. Donc on a construit à partir de ces paramètres-là quelque chose qui sera ou ne sera pas un festival. Pour l'instant, la question ne se pose pas, mais enfin, voilà. Elle n'est pas inintéressante, évidemment.
Alors, je savais que je disais une bêtise en disant ça, hein, c'était presque fait exprès. mais il existe des festivals aussi qui ne durent qu'une seule édition, ça arrive aussi. Et en tout cas, ça a cette couleur avec la réunion des concerts, des talents. Et puis aussi, il y a beaucoup de manifestations à la fois graphiques, chorégraphiques, installation lumière, sonore bien sûr, et puis il y a autre chose alors que le public ne voit pas forcément, mais je sais que vous vous rencontrez régulièrement, tous les jours en vérité, que vous discutez entre vous, que vous échangez. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots de cet aspect-là ?
Voilà, ça c'était important pour moi d'arriver à poser dans cet emploi du temps qui était déjà très, très resserré, très chargé, parce que les concerts, ben derrière il y a des check-sounds, des équipes et toutes ces choses qui sont vraiment à privilégier pour que les choses émergent au public, les temps d'installation des expositions aussi. Et ça a été important pour moi de proposer ces temps, les matinées, entre donc les 9 musiciennes dont le portrait a été réalisé, pour qu'on puisse en fait poursuivre ce qu'on a commencé à deux, dans les portraits vidéo. Donc ce qu'on a commencé à deux sont des temps d'échange, de paroles privilégiés, puisqu'on avait un temps privilégié. Un entretien, c'est toujours un temps particulier. Et de pouvoir aussi faire que ces musiciennes se rencontrent. Donc elles se rencontrent sur le plateau à travers des improvisations, des temps de repas, mais qu'on puisse poursuivre les questions qui ont émergé entre nous et qui sont pas toutes dans les portraits vidéo, et de pouvoir en fait amplifier ce principe du dialogue, de l'interview qui donne lieu à un portrait vidéo.
Alors il y a cette question de la sororité, bien entendu, soror-sonore. Comment tu l'abordes ? Est-ce que c'est avec un idéal ? Est-ce que c'est avec des guillemets presque naïvement ? Est-ce que c'est quelque chose qui, en vérité, est à construire ? Qu'est-ce que tu entends par cette notion qui est présente dans le titre de l'événement ?
Justement, je pars de ce que j'entends. C'est-à-dire que j'aime déjà beaucoup la sonorité du mot soror. Qui fait écho avec celui de sonore. C'est pour ça aussi que dans la façon de l'écrire, il y a un petit décalé d'orthographe hein, qui fait basculer le E de sonore dans celui de soror. Donc ça, c'est un mot que j'aime déjà, que j'aime entendre, que j'aime prononcer, qui fait déjà écho, qui fait déjà qui se multiplie, qui continue de s'amplifier, comme on a parlé tout à l'heure. Et alors ce mot, je suis partie du son de ce mot, je suis partie de ce mot. Et ce qui m'a touchée quand je l'ai découvert hein, dans l'ouvrage collectif mené par Chloé Delhomme, qui en donne une définition, c'est qu'elle dit que donc ce mot existe depuis longtemps, mais il a été effacé de nos dictionnaires compulsés ces derniers temps. En fait, et là, il ressurgit. Donc c'est un mot qui a dormi. Qui ressurgit. Voilà, j'aime beaucoup cette notion-là. Et peut-être, du coup, à partir de ce moment-là, et beaucoup de naïveté, j'imagine, et beaucoup d'utopie à la fois, et ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, déjà, de le pouvoir le poser en parallèle avec celui de fraternité, pas forcément pour dire qu'il faut le remplacer, évidemment, mais déjà pour poser les deux côte à côte. Et interroger ce dialogue aussi.
Comment est-ce que tu as choisi toutes les artistes qui figurent à la fois dans tes vidéos, tes portraits, donc soror-sonore, et donc qui sont présentes ici, dans cet événement à Chaumont ?
Donc le projet est né donc en 2022 au sein dans un groupe qui se questionnait de comment mettre en lumière le travail des compositrices. Donc c'était déjà un travail en collectif qui s'interrogeait de quelle façon on pouvait faire ça, étant donné que moi j'ai une pratique donc du film, de la vidéo. Ça s'est concrétisé sous cette forme-là, et je n'ai pas fait un choix d'une liste préalable. Ce sont des musiciennes, des compositrices que je côtoie dans mon milieu professionnel. Et en fait, donc il n'y a pas de liste préalable, il n'y a pas de désir de faire un focus ou de donner une vision d'un endroit précis, exhaustif, tout ça. C'est surtout au moment où on va parler peut-être un tout petit peu plus, ou quelque chose va me faire... va me faire tilt dans la conversation, faire lien aussi avec une problématique que j'ai ou des questions que j'ai envie de poser sur ce thème-là. Et donc la première, ça a été par exemple Ayako Okubo. Donc avec Ayako, c'était sur ces notions de silence. Après, ça s'est développé avec d'autres notions. Et chaque fois, l'histoire, c'est d'aborder peut-être d'autres notions, de les compléter, de les tisser. Donc les portraits se tissent les uns avec les autres pour essayer et de garder un fil conducteur, et en même temps d'aborder une autre notion On a aussi réfléchi de comment faire le lien avec les autres propositions. Et ça va se faire via une des artistes qui n'est pas compositrice, donc qui est une plasticienne qui s'appelle Margot Bernard, donc avec qui j'ai travaillé aussi en parallèle de toute cette préparation et qui, elle, fait un travail de collecte, de citation, des textes vidéo, d'extraits des images, des vidéos.
Alors je précise hein, pour nos auditeurs que Margot Bernard effectivement propose une très belle installation dans la Bulle, donc une des salles du Nouveau Relax, et qui en fait consiste en effectivement, comme tu le disais, des extraits de textes, alors des extraits de citations de différents ouvrages qui parlent de la sororité, qui parlent d'autres sujets encore, qui ont servi de base de réflexion à l'élaboration de cet événement. Et puis elle ajoute des citations de vos réunions régulières, c'est-à-dire des éléments qu'elle a attrapés au vol, qu'elle a trouvé pertinents et qu'elle ajoute petit à petit par des papiers, c'est-à-dire c'est une exposition work in progress qu'elle ajoute sur les tables. Et enfin, il y a effectivement aussi un aspect visuel avec des éléments tirés de tes vidéos qu'elle a traitées sur différents types de papiers, des papiers plus ou moins fragiles, avec un effet graphique tout à fait intéressant qui est posé comme ça sur cette grande table. Je parle un peu du programme maintenant, si tu veux bien. Sur cette première soirée, on est rentré dans le vif du sujet, puis-je dire, puisqu'on était vraiment là dans la pure improvisation. Et même sans en savoir les bases, je dirais même au niveau des effectifs, puisque c'est le public qui a tiré au sort, donc le nombre d'intervenantes, leur nom et le temps de chaque improvisation. Pour le coup, les repères volaient en éclats.
Oui, mais ce qui nous a amusé aussi, c'est de faire voler un peu en éclats quelques repères qui auraient pu être les nôtres, puisque certaines des compositrices et musiciennes, en fait, se connaissent. Certaines ont un duo ou ont joué ensemble, mais pas du tout l'ensemble. On a grosso modo jamais joué ensemble. Ça permettait aussi de y aller franco. Et la façon qui nous a semblé la plus simple de rendre le public présent ou d'entrer dans cette aventure aussi avec nous, c'était de se mettre à un moment donné dans la même temporalité, dans ce même challenge, et de vivre ça ensemble et de aussi de nous remettre dans les mains d'un hasard. Voilà. Donc ça peut sembler peut-être anecdotique, mais c'est surtout un procédé que je trouvais très agréable et qui permet déjà de flouter un peu la limite entre la scène et l'espace siège où est captif le public.
Merci beaucoup, Céline Pierre.
Merci.
Je suis avec Floyd Crouchy qui va jouer son solo F Cabas ce soir, donc pour Soror Sonore. C'est une basse augmentée très particulière qu'on a conçue pour toi, la F Cabas. Et donc tu réalises un seul sur scène. Quelle est la nature de ce projet ?
Donc la F Cabas, c'est un instrument qui est venu par mon désir de jouer cet instrument qui est la basse électrique fretless, qui est mon instrument à la base, en solo. Et je trouve que la basse est très très peu jouée en solo, c'est pas un instrument du tout considéré comme soliste. Et il m'a paru très beau en deux formats, c'est-à-dire mélodique et vraiment électrifié en passant par les subs. C'est-à-dire qu'en fait je joue de cet instrument augmenté et des haut-parleurs et du sub et de la vibration dans l'espace. Et donc j'ai pensé une lutherie virtuelle et une basse où les capteurs sont intégrés pour la contrôler, pour pouvoir transformer en fait mon instrument dans un spectre large, orchestral, qui me permet d'aller chercher des fréquences et très aiguës et infrabasses. Et je joue en gros de la vibration, je dirais, pour moi.
Alors, on entend dans ce solo, moi c'est le souvenir que j'en ai, des moments où clairement la basse est identifiable, c'est-à-dire qu'on entend vraiment la basse fretless, son, ses hauteurs, et parfois c'est de la matière sonore pure. Alors c'est relié à un ordinateur, hein, bien sûr, et on est vraiment dans des effets de matière granuleuse ou réverbérante, ou etc. Tu gères toujours ces deux types d'aspects au fil de ton solo ?
Alors quand je joue en solo, oui. Quand je travaille avec d'autres instrumentistes, je peux choisir vraiment un des deux aspects, plutôt de la matière sonore ou plutôt mélodique. C'est un peu ce que je te disais avant. En solo, j'aime bien passer. En fait, je trouve ça très intéressant de passer de cet univers. C'est comme des chapitres, en fait, où je reviens toujours à mon instrument brut. Quelque part à la mélodie, au raga indien, à l'idée de la mélodie à travers la basse et le raga indien, oui, que j'ai étudié en Inde. Donc, comme j'étudie avec un instrument qui est très proche de la basse, pour moi, j'entends toujours cette pulsation, ce souffle à l'intérieur même de la matière, en fait. C'est l'un est dans l'autre et l'autre est dans l'un.
Est-ce que ce solo a évolué au cours des années ? Qu'est-ce qui s'est transformé ? Et peut-être que c'est le moment d'aborder cette question peut-être de l'écriture et de l'improvisation qui t'importe beaucoup, de ce que je sais, et tout particulièrement sur cette œuvre-là.
Alors le solo depuis la première que tu as vue a quand même beaucoup changé. Il a pris deux formes. Il y a eu le 1 et là je tourne le 2 depuis 2023. Mais en fait c'est un peu toujours la même chanson et jamais la même chanson. C'est-à-dire que j'écris des formes. J'ai un répertoire de matière et de passages qui me permettent d'écrire des formes et à l'intérieur desquelles c'est toujours improvisé. Donc, en fait, c'est toujours la même chose et jamais la même chose. C'est particulier parce qu'en fait, en répétant là pour venir, je change les ordres où je me dis, tiens, là, je vais commencer par quelque chose de beaucoup plus doux et je vais faire monter la pièce. Ou là, non, j'ai envie de commencer dans le gras, vraiment dans la vibration. Ça, j'intervertis un peu la forme, mais elle est faite quand même de cellules qui sont un peu autonomes et qui s'interchangent et qui se nourrissent à chaque fois du moment. La question de la composition, c'est ça. C'est penser quand même des formes, des modules qu'on peut intervertir, mais où on a une colonne vertébrale, on va dire. Et la question de l'improvisation, c'est... On arrive dans une salle, on n'a jamais le même son, et c'est bien. La salle résonne d'une certaine manière... ensuite, le public n'est jamais exactement le même, on n'est pas dans le même état. Et puis, la machine que j'ai conçue, donc la basse, la FK basse, basse augmentée, elle est assez complexe, et donc c'est un organisme à part entière. Donc en fait, j'ai une part d'improvisation avec mon dispositif. Par exemple, je fais des micro-boucles, ça ne sera jamais les mêmes, sur lesquelles je vais rejouer ou que je vais transformer. Donc forcément, ce solo nécessite une écoute de musique improvisée. En fait, l'écoute, c'est qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui est en train de se passer sonorement et auquel je vais répondre. Et la composition, c'est qu'est-ce que je construis, c'est une pensée, une espèce de pensée préétablie d'une certaines formes et constructions, je dirais comme ça, hein, très rapidement.
Tu m'avais parlé dans une autre interview de justement cette question des ragas que tu as abordé tout à l'heure, en me disant qu'il y avait des ragas pour certains moments de la journée, pour certains états aussi. Est-ce que c'est quelque chose que, dont tu tiens compte aussi dans, dans ce solo-là de EFK Bass ?
Alors, pas complètement, parce que effectivement là, dans les ragas indiens, c'est vraiment selon les heures de la journée. Ça change matin, lever du soleil même, lever du soleil, matin, midi, après-midi. Moi, je pense que ce qui m'influence beaucoup, c'est ce qui se passe dans le monde, en fait. C'est ça mon thermomètre. Je pense que je suis très poreuse ou réceptive à la vibration qui se passe dans le monde, et je pense aussi que le son, c'est du soin. Même le son fort, même le son bruitiste, désorganisé, qui peut paraître désorganisé, je pense que c'est du soin. Donc voilà, je sais pas si je t'ai répondu, mais quelque part, ouais, c'est plus une espèce de résonance avec un rythme global.
Qu'est-ce qui fait que tu es présente ici à Soror Sonore ? Qu'est-ce qui t'attire dans ce rassemblement d'artistes, de femmes? Qu'est-ce qui t'a parlé?
Alors bon, moi, il faut savoir que j'ai commencé par un ensemble de musiciennes, hein, un collectif qui s'appelait Mafoukage dans les années 95 à Paris. Donc on était un peu avant-gardistes là-dessus. C'est des tentatives d'ouvrir des espaces un peu différents de ce qu'on connaît, du milieu qui est quand même qui était en tout cas à l'époque, mais qui est quand même encore toujours relativement masculin. Et essayer de voir ce qui se produit, c'est des expérimentations, je pense. C'est une expérimentation qui me paraît intéressante, valide. On a du temps pour improviser ensemble, ce qui est vraiment aussi une belle rencontre, une belle manière de rencontrer des femmes artistes, musiciennes. Et puis, on est toutes des femmes qui ont un parcours relativement... déjà, on est des musiciennes depuis des années, on dirait 20, 30 ans, hein, au moins. Et donc, on peut comparer nos parcours, le partage d'expérience est vraiment spécifique à ce genre d'espace, je dirais.
Vous vous réunissez tous les matins, il y a des discussions aussi entre vous. Est-ce que ça participe complètement de cette rencontre ? Qu'est-ce qui s'y passe, sans révéler forcément s'il y a des secrets, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui s'y passe dans ces moments ?
Alors, on a un grand chaudron et on fait cuire.
Ah ouais, le fantasme.
Le fantasme des sorcières. Non. Bien. Oui, pardon. Céline Pierre, donc organisatrice de Soir Sonore, a tenu à ce qu'on ait ces moments de partage et de questionnement sur nos pratiques, sur qu'est-ce que c'est qu'être un collectif, qu'est-ce que c'est qu'être ensemble. Comment considérer l'improvisation ? Est-ce que l'improvisation s'arrête au plateau ? Est-ce qu'elle s'arrête bien plus loin ? Est-ce qu'être entre femmes, ça s'arrête avant le plateau ? Est-ce que la musique qu'on produit est faite de tout ce qu'on a discuté aussi ? Oui, il y a une confiance qui s'installe. Il y a quelque chose qui s'installe dans le fait de discuter ensemble, je pense. Quelque chose qui ne va pas forcément toucher à l'esthétique, c'est-à-dire à quand on va se mettre à jouer, chacune est ce qu'elle est, mais qui installe, oui, une reconnaissance, un souffle. Ouh, voilà, respirer un peu.
Et sur la sororité, tu as des choses à dire sur ce concept. Y es-tu sensible ou pas du tout ?
Alors, je suis sensible au concept de sororité dans la mesure où on vit dans un monde qui n'est quand même pas qui s'améliore, enfin, avec des possibilités de rétrogradation là qui sont en train de se profiler. Mais on va dire, on a amélioré un petit peu la question du genre, mais on vit quand même dans une société où je pense que les femmes ont, sur des générations, énormément souffert. Ce qui ne veut pas dire que les hommes n'ont pas souffert, mais on va dire, les femmes ont encore, par exemple, des salaires inégaux, mais aussi un accès beaucoup moins facile à la parole et au pouvoir en général. Et donc, c'est quand même libérateur et ça donne de la puissance d'agir que de penser que ces femmes sont des sœurs et non pas, puisque quand même, le patriarcat veut nous faire souvent penser ça des concurrentes. Et cette idée de la sororité, c'est l'inverse de l'idée de la concurrence, compétition. Et plus largement, je pense que c'est un concept qui devrait être appliqué à tous nos frères et à tous les humains, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans une certaine approche du pouvoir ou de réflexivité sur ce qu'est être ensemble, un peu plus de douceur et de facilité dans le monde, là, parce qu'on est quand même vraiment confronté à énormément de violence. Et je pense que c'est... Alors, sororité, c'est un passage, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être frères et sœurs humains. Je pense que, voilà, avec toutes les différences, et à l'endroit où chacun a absolument envie de l'être, au niveau du masculin dans le féminin, du féminin dans le masculin, d'hommes qui sont très féminins et de femmes qui ont envie d'être ce qu'elles sont.
Merci beaucoup, Chloé Crouchy.
Merci beaucoup, Guillaume.
Alors je suis avec Lucie Prodhomme qui est compositrice, improvisatrice, qui a participé d'ailleurs à plusieurs, aux différentes rencontres d'improvisation qu'on a eues le premier soir de Soror Sonore, et qui aujourd'hui, en ce samedi, deuxième jour de cet événement, va animer, et d'ailleurs anime toute la journée avec eux, toute l'après-midi, avec des élèves du conservatoire qui sont tous dans l'orchestre à cordes du conservatoire, donc contrebasse, violoncelle et violon. J'ai compté, il y a une dizaine de participants qui animent un atelier d'improvisation qui va ouvrir la soirée, c'est bien ça ?
Tout à fait, oui, oui, oui. Et c'est un travail qu'on a commencé en amont, donc avec le conservatoire de Chaumont, donc avec son directeur Olivier Cordel, et avec le professeur qui s'occupe de l'ensemble à cordes, c'est-à-dire Anne Daval. Et donc en amont, pendant 8 semaines, ça a duré 3 mois, mais 8 semaines de travail, je leur ai envoyé chaque semaine 3 propositions, donc des propositions d'improvisation, que je leur ai écrites, concoctées et que j'envoyais chaque semaine et qui travaillaient avec leur professeur. Et puis aujourd'hui, je les voyais pour la première fois en vrai, quoi. Et on a donc travaillé autour de l'improvisation et de propositions que je leur ai faites, que eux ont faites aussi. Donc il y aura des choses qui vont partir de ce qu'ils ont travaillé dans les semaines précédentes. Et puis des choses qui vont travailler aujourd'hui en trio, et on aura les deux choses qui se juxtaposent avec l'idée qu'ils s'approprient tout ça, quoi, ces matériaux.
J'ai entendu tout à l'heure un petit bout de ces rencontres, mais c'est tout à fait étonnant, en tout cas en visioconférence. Alors moi je sais que tu es dans le sud-ouest de la France, tu enseignes au conservatoire de Perpignan, donc là on est à Chaumont, c'est quand même assez loin. Ça peut se faire comme ça des cours, ou en tout cas des initiations à l'improvisation via la visio?
Alors on n'était pas en visio, non. On s'est rencontrés à distance, oui, le premier coup pour histoire de faire connaissance, encore que la visio ne voulait pas bien fonctionner, mais ce n'est pas grave. Enfin, en tout cas, je leur ai expliqué le principe. Mais après, j'ai envoyé les partitions.
C'est ça. Alors, des partitions d'improvisation, c'est assez étrange. Ça, c'est l'improvisation façon Perpignan?
Alors, pas du tout. Ce n'était pas des partitions. On a appelé ça partition par commodité de langage, mais ce ne sont pas des partitions. Et c'est pour ça que le projet s'appelle Improposition, parce que ce sont des propositions d'improvisation. Donc, j'envoyais des... Comment on pourrait dire ça? Oui, des espèces de partitions textuelles avec des consignes. Par exemple, une qui sera jouée ce soir qui s'appelle Sol glissant. Ben, Sol glissant, c'était sur le sol, oscille, oscillons, osciller, aussi sans ciller ni sourciller. Et il y avait un petit dessin en dessous avec des petites choses qui oscillent. Et donc, il s'emparait de ça. Et après, il y a plein de façons de le jouer. En fait, ce sont juste des prétextes. Je leur ai donné des prétextes pour travailler, pour improviser. Voilà, il y en a de toutes sortes. Je ne sais pas si je te prends Sagratte. Ça, c'était dans les premières pour travailler les modes de jeu. Ben voilà, il y avait Sagratte, point d'interrogation. Sagratte très fort, ici et là. Sagratte toujours aussi, oh là. Sagratte encore un peu partout. Sagratte moins jusqu'ici, jusque-là. Sagratte moins du bout des doigts. Oh! Voilà. Et après, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Soit ils suivaient textuellement, mais ce n'était pas l'objectif. Soit ils travaillaient sur le mode de jeu. Soit ils travaillaient... Enfin, ils travaillaient ce qu'ils voulaient. L'idée, c'était de lancer l'improvisation dans leur cours. Mais après, c'est ce que j'ai dit au professeur et c'est ce qu'elle a fait, je pense. Voilà, c'était une idée de départ. Et puis après, il n'y a plus besoin d'idée de départ. Aujourd'hui, par exemple, on travaille en groupe. Je n'ai pas donné de consignes, ils n'en avaient pas. Et pour certains groupes, ils sont partis tout seuls... en improvisant sur ce qu'ils voulaient.
Alors j'ai vu qu'il y avait toutes les tranches d'âge, de tout jeune jusqu'au plus âgé, hein, des adultes. Évidemment, il faut qu'on dépasse certains réflexes, certaines habitudes. Qu'est-ce qui est le plus difficile à quitter pour entrer dans ce monde de l'improvisation qu'ils vont nous présenter ce soir?
Alors, ce n'est pas une question d'âge, je crois. C'est une question de formatage. Et on peut être formaté très jeune ou très vieux. Et c'est très dommage quand on est formaté très jeune, enfin très vieux aussi d'ailleurs. En fait, ce qui est difficile, c'est que souvent l'enseignement, il apprend, on doit faire les choses comme ça, on doit jouer les rythmes comme ça, les hauteurs comme ça, puis on doit tenir son instrument d'une certaine façon, et puis on doit jouer juste, puis on doit... Et en fait, du coup, ça, pour moi, ça stérilise un peu l'imagination, enfin c'est pas un peu, beaucoup, l'imagination. Et du coup, après on leur dit, ah ben, il faut improviser, allez-y. Mais en fait, je crois qu'on prend les choses à l'envers. Enfin, moi, il y a longtemps que je milite pour que ça marche dans l'autre sens. Si c'était moi qui faisais les programmes et qui décidais, je pense qu'il faudrait plutôt partir partir de l'improvisation au début des apprentissages et jouer avec son, jouer, on dit jouer, bon sang mince, et jouer de son instrument et jouer de toutes les manières possibles, oui, en faisant des jolies notes bien propres, mais aussi en faisant des trucs tout crados, enfin des sons de toutes sortes, et jouer avec ça. La musique, elle n'est pas faite que de sons avec des hauteurs définies et des rythmes qu'on connaît. Enfin, et dans la musique du monde, partout, il y a des tas de choses qu'on peut entendre à toutes les époques et dans tous les coins de la planète. Et c'est fait de sons, la musique, et pas seulement de beaux, entre guillemets, sons bien propres. Voilà.
C'est ça, c'est cette définition du beau son qui est souvent problématique. C'est-à-dire, surtout, je pense, sur les instruments à cordes, où on a cette définition un petit peu romantique du son vibré, juste, à une telle hauteur, etc. Et c'est vraiment ça, probablement, dont il faut sortir pour pouvoir se libérer et partir sur d'autres chemins.
Ben oui, je crois que c'est ça. Ça, la difficulté, c'est que souvent, on limite l'apprentissage à une période de l'histoire de la musique dans la musique occidentale et qu'on passe à côté de plein d'autres choses et que du coup, ça empêche les oreilles d'entendre tout un monde sonore, ça empêche les gestes de toutes sortes de sons qu'on peut sortir de l'instrument. Et c'est, enfin, en tout cas, moi, je milite pour qu'un bon musicien, il doit être capable et de jouer effectivement des choses romantiques, pourquoi pas, j'ai rien contre, mais aussi de jouer des choses où ça marche autrement, où on entend autre chose. Et on peut jouer seul ou à plusieurs et être tout à fait dans la musique, avec des jolies belles notes bien propres, mais aussi avec des sons de toutes sortes. Et c'est ça qu'il faut. Et en plus, je suis persuadée que même si après on choisit de jouer que de la musique romantique ou classique, pourquoi pas, le fait d'avoir ouvert les oreilles sur un autre monde sonore et sur d'autres modes de jeu, ça va de toute façon enrichir la pratique, très clairement. Plus on a un horizon large, et plus on est capable d'envisager de faire ce qu'on veut, quoi.
Et quels sont les retours des élèves ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que, alors j'imagine que ça doit être différent hein, suivant les personnalités, mais est-ce que tu sens quelque chose qui s'ouvre, des mondes qu'ils ont envie d'explorer par la suite ou
Oui, moi je crois que, enfin après c'est une question de pratique, petit à petit, au début il y a peut-être un peu d'étonnement, et après je crois que oui, ils se prennent au jeu, mais il faudrait peut-être leur poser la question, aller balader le micro, leur demander. Je crois qu'après ils se prennent au jeu et que petit à petit ils arrivent à comprendre que oui, c'est ça aussi, c'est de la musique, quoi, et que ça peut donner des choses passionnantes. On a eu des moments là pendant l'atelier où effectivement il y a eu des moments où on sentait que tout le monde était d'accord sur ce qui se passait là était de la musique, et pourtant c'était pas la musique qu'ils ont l'habitude de jouer tout le temps et tout ça. Donc oui, ça fait toucher du doigt. Alors, dans les participants, on a Yvan, qui est un jeune contrebassiste, qui nous a écrit sur les improvisations. Quand je fais de l'improvisation, je suis joyeux. Et puis surtout, en groupe, c'est cool. Et puis, les textes et les images racontent plein de choses. À nous de choisir quoi.
C'est très beau, ça.
Ben voilà, ça résume.
Alors Lucie Prodhomme, je vais te poser une dernière question. On est au festival, ou à l'événement, en tout cas, ça ne porte pas le nom de festival, Soror Sonore. Sororité, qu'est-ce que ça te dit à toi ?
Oui, en fait, Soror Sonore, on en a discuté, et moi, ce que je disais, c'est que ce qui fait la sororité, c'est peut-être pas le fait qu'on travaille dans le sonore, c'est le fait qu'on soit toutes des femmes qui ont choisi de faire ce qu'elles avaient envie de faire. Et elle est là, la sororité. Plus dans le fait que ce soit sonore. On pourrait être avec des plasticiennes, avec des sculptrices, avec des auteurs de livres. La sororité, pour moi, elle est plus là. Dans le fait que chacune d'entre nous avait, c'est notre point commun, enfin, me semble-t-il, avait décidé à un moment de dire, bon ben oui, pour certaines, je fabrique ma lutherie, et oui, peut-être c'est un truc où on voit plus d'hommes fabriquer ça, on est plus étonné de voir des femmes que des hommes, mais je m'en fiche, c'est ça que je veux faire, je l'assume. Moi, dans la composition électroacoustique, où il y a finalement moins de femmes, enfin maintenant ça commence à bouger, mais en se disant, bon ben moi c'est ça que je veux faire, et peut-être même des fois sans se poser la question de savoir si c'était un truc d'homme ou de femme, mais en disant, c'est le choix que j'ai fait, et j'ai choisi cette pratique artistique et j'y vais. Et pour moi, la sororité, elle est là, parce que toutes celles que je vois là, dont certaines que je ne connaissais pas, en fait, elles ont toutes affirmé à un moment, voilà, mon choix, c'est d'être dans cette branche de la musique, mon choix, c'est de travailler dans cette lutherie, mon choix, c'est de faire de l'improvisation, mon choix, c'est de composer, mon choix, c'est de... Et la sororité, elle est là.
C'est-à-dire un choix qui n'était pas un choix, je dirais, attendu socialement.
On va le dire comme ça, oui. Oui, oui, bien sûr, certainement, certainement. Certainement pas ce qu'attendaient leurs parents d'elle ou leur entourage ou la société en général, effectivement. Est-ce que compositrice, c'est un métier de femme? Est-ce que improvisatrice, c'est un métier de femme? Est-ce que... Mais on a la même question avec est-ce que sculpteur, sculptrice, c'est un métier de femme? Est-ce que... Il est pareil pour les pompières et les pilotes de ligne.
Merci beaucoup, Lucie Pourdom.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Kosmicki.
Trio Adventis avec Patricia Dalio, Pomme Bouvier B et la danseuse Aurore Gruel.
Merci Guillaume, donc Guillaume Kosmicki qui a réalisé cette émission autour du festival Soror Sonore. Et donc ce festival, on lui souhaite d'autres éditions et on...
Radio Primitive, engagée pour l'éducation populaire.
La bulle mécanique sur Radio Primitive, votre rendez-vous culturel 100% rémois.
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission, la bulle mécanique, la dernière de la saison en plus.
Non, déconne.
Ouais. Et avec Couscous aujourd'hui.
Bah ouais.
Puis Ludo qui est à côté de moi, il a pas assez de micro.
Bonsoir, bonsoir.
Il a pas assez de casque non plus.
Il a pas assez de casque, ouais, il est puni derrière moi, derrière la vitre.
Double punition, il est avec toi.
Ouais. Et aujourd'hui, on reçoit le groupe Veldon pour la dernière, la famille.
Salut,
ça va les gars?
Hello.
Salut, salut.
Ça va.
Ça va.
Alors, premier jeu de l'émission, est-ce que vous avez réussi à compter combien il y avait de personnes avec nous?
C'est beaucoup trop compliqué.
Ouais.
On passe à la question sur
c'est chaud aujourd'hui. C'est aux auditeurs que je pose la question. Bref.
Ouais. Ils sont venus à 4 en tout cas, ouais. Les 4 membres du groupe.
C'est ça.
Ouais. Bah, nous, on vous connaît, mais est-ce que vous pouvez vous présenter déjà chacun votre tour?
tout le monde nous connaît. Mais on est obligé de passer par les présentations.
Ah bah tiens, t'ouvres ta bouche là, vas-y, commence.
Oh, t'as le droit de dire gueule.
Ok, du coup.